Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de méthoderecherche.com dans le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique.
Alors, je vais vous présenter ce soir, comme vous le voyez, 5 secrets de l'analyse donnée qualitative. Alors, je vais parler ce soir du qualitatif. Rappelez-vous, il y a quelques webinaires, on a parlé d'une démarche quantitative avec les questionnaires. Là, on est vraiment dans une approche qualitative, qui est une approche différente en tout cas de l'approche quantitative. Alors, tout d'abord, le premier secret que je voudrais vous révéler en tout cas, c'est que peut-être le savez-vous, mais en tout cas, c'est important pour moi de vous le dire, qu'il existe, vous le savez, des logiciels d'analyse qualitative. Vous avez entendu parler peut-être de programmes comme NVivo, peut-être un peu moins MaxQDA. Alors, MaxQDA, c'est un logiciel qui est le concurrent d'NVivo, qui est bien moins connu. Et NVivo, MaxQDA, après il y en a d'autres bien évidemment, il faut savoir que ce sont ce qu'on appelle des CAGDAS. Ce sont des logiciels d'aide à l'analyse qualitative. Alors qu'est-ce qu'on entend par CAGDAS en fait? On entend par CAGDAS le fait que ce sont des assistants à l'analyse qualitative. C'est-à-dire qu'eux, ces logiciels-là ne vont pas vous faire l'analyse qualitative. Autant les programmes de statistiques dans le quanti vont vous faire les stats, ils vont vous les calculer automatiquement. Par contre, on peut dire malheureusement, dans le qualitatif, ce ne sont que des aides à l'analyse qualitative. Ils ne vont pas vous faire l'analyse à votre place. C'est vous qui allez devoir coder manuellement. Alors bien sûr, il y a des aides maintenant, notamment avec l'IA, qui permet avec NVivo et MaxQDA de vous aider un peu à commencer à coder. Mais en tout cas, sachez que ces programmes ne vous feront jamais l'analyse qualitative, c'est à vous à interpréter les données, à dégager les thèmes, à faire ressortir les thèmes. D'ailleurs, ce que disent Brown et Clark dans ce qu'ils ont élaboré comme analyse des thématiques réflexives, ils disent que les thèmes n'émergent pas d'eux-mêmes. C'est toujours le chercheur, celui qui a codé les données, celui qui est en train d'analyser les données, qui va faire émerger les thèmes. Ils n'émergent pas d'eux-mêmes. C'est une croyance, une fausse croyance, de croire en fait que les thèmes émergent comme ça par magie. C'est faux. Et ces auteurs-là, notamment très récemment en 2022, ont indiqué clairement que c'est le chercheur, par son interprétation, par sa subjectivité finalement, qui va faire ressortir les thèmes. Les thèmes ne ressortent pas d'eux-mêmes. Donc, il faut comprendre que ces logiciels, finalement, sont en moins de puissance, en tout cas, moins d'efficacité pour faire l'analyse automatique, sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est le chercheur qui va s'aider juste de ces logiciels. Est-ce que ça, vous le saviez ou pas? Dites-moi dans le chat si vous saviez que ces fameux logiciels, dont vous entendez souvent parler, NVivo, on entend souvent parler, NVivo, MaxQDA, après il y en a d'autres, bien évidemment, mais ce sont les deux plus connus, notamment NVivo. Il faut savoir que ce sont uniquement des logiciels des CAGDAS, des logiciels d'aide à l'analyse qualitative. Ils ne vont pas vous faire l'analyse à votre place et peut-être êtes-vous surpris en vous disant « Ah mince, mais moi je comptais faire mon analyse avec ce logiciel par exemple ou un autre et je pensais qu'il allait vraiment me faire l'analyse qualitative. » Et bien non, il ne faut pas compter dessus. Ce sont juste des assistants, des aides. Est-ce que vous le saviez ça? Dites-moi en commentaire. Oui, tu connais Marilyn. Donc ça peut en surprendre certains et certaines, c'est vrai que... Mais ça demande une formation, il faut se former à ces logiciels. Mais il faut savoir en fait que l'analyse qualitative ne nécessite pas forcément d'avoir ces logiciels. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que le chercheur sache ce qu'il a à faire. Parce que c'est très bien d'avoir ces programmes-là, mais si vous ne connaissez que les fonctions, sans comprendre les tenants et les aboutissants de ce qu'est l'analyse thématique, notamment réflexive, eh bien vous ne pourrez rien en faire. Vous connaîtrez les fonctions, mais vous ne connaîtrez pas la démarche qui est sous-jacente, voyez. Et pour moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'il est plus important de comprendre la méthode, la démarche, plutôt que l'utilisation de ces programmes, qui sont que des outils fonctionnels, d'accord. Et c'est ça que je vous enseigner en tout cas, je vais vous faire comprendre. En plus de ne pas aider, exactement, ils sont compliqués à utiliser, ils deviennent des usines à gaz, ce sont vraiment des logiciels qui ont beaucoup de fonctions, qui traitent beaucoup de choses, et on s'y perd dans ces programmes-là. On ne sait même plus comment faire pour analyser les données, même pour coder le corpus, c'est très compliqué, et encore plus pour l'analyser par la suite. Donc on a tendance à se perdre, et notamment, je connais en tout cas des formateurs qui forment à ces logiciels, mais ils ne forment pas la démarche qualitative, ils forment à l'utilisation du programme. Mais si on vous forme à un programme, après vous n'avez pas la démarche derrière. Comment faire une analyse qualitative? D'abord, il faut savoir presque, je dirais, la faire, entre guillemets, à la main, à l'ancienne, pour comprendre après comment elle peut se faire avec un programme. Parce que le programme, il est là uniquement pour reproduire, pour assister. Mais si vous ne comprenez pas les tenants et les aboutissants de l'analyse thématique, notamment réflexive, la méthode, eh bien, vous serez perdu. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Donc, c'est ce premier secret qui, pour moi, était important à vous faire comprendre. D'accord? Alors, je vais passer au deuxième secret, qui est finalement que l'analyse thématique, notamment réflexive, celle que je vais vous enseigner ce soir et que je vous enseigne dans mon programme, elle est ce qu'on appelle athéorique. Alors là, vous ne le voyez pas. Voilà. Elle est athéorique, en fait. D'accord? Et ça, c'est important de comprendre que elle est à la fois inductive, déductive ou les deux. Vous voyez qu'il y a vraiment une souplesse. Alors, qu'est-ce que j'entends, à votre avis, par athéorique? Qu'est-ce que je veux dire par athéorique? Qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Dites-moi dans le chat si vous avez une idée de ce que veut dire athéorique. Je ne veux pas vous noyer ce soir sur les termes. Hein. On ne va pas faire très savant ce soir. Non, je ne sais pas. D'accord. Ben, tu vas le savoir. Les autres? Répondez-moi dans le chat, les autres, peut-être, ou en commentaire, là où vous êtes. Qu'est-ce que veut dire athéorique, finalement? Parce qu'on se dit, oui, mais c'est quoi ce mot athéorique? Bon, vous comprenez bien, inductif, d'accord? Inductif, c'est qu'on part des données du bas pour théoriser, d'accord? On part sans a priori théorique et on va créer une théorie. Le but d'une méthode inductive, c'est une méthode qui va du bas vers le haut, des données les plus basses du terrain pour théoriser. Alors qu'une approche déductive, c'est ce qu'on appelle l'approche hypothético-déductive, l'approche positiviste, scientifique, qu'on utilise pour élaborer une hypothèse, la tester et voir si elle est significative ou pas, vous voyez. On s'appuie sur une théorie, on a priori théorique, vous voyez, et on va tester une hypothèse suivant la théorie. Par contre, ce qu'on appelle athéorique, c'est qu'il n'y a pas de théorie, ça ne repose pas sur une théorie, vous voyez. Et par rapport à d'autres méthodes, par exemple, vous voyez ici que l'analyse par théorie ancrée, c'est ce qu'on appelle la grounded theory, il y a une philosophie derrière, vous voyez, il y a vraiment une philosophie sous-jacente. Également, dans l'analyse phénoménologique interprétative, qu'on appelle l'IPA, c'est une méthode qui a été créée par les psychologues pour recueillir le vécu subjectif des gens, vous voyez, comment les gens vivent leur vie finalement, quels sont leurs vécus émotionnels, leurs vécus subjectifs, vous voyez, ça a été créé par les psychologues. Et donc, il y a un a priori théorique derrière, vous voyez, toutes ces méthodes d'analyse qualitative qui relèvent d'une théorie, la théorie ancrée, c'est une théorie, c'est une philosophie. Pareil pour l'IPA. Alors que, par contre, l'analyse thématique réflexive, il n'y a pas d'orientation philosophique derrière, vous voyez. C'est une méthodologie et elle est athéorique. On appelle ça athéorique parce qu'elle ne repasse pas sur une théorie. C'est ça qui fait sa flexibilité, entre guillemets, vous voyez. C'est pour ça que c'est une méthode qu'on peut utiliser de manière inductive, déductive, de manière très souple, vous voyez, avec des allées et venues, des retours. Ce n'est pas une méthode où on fait A, B, C, D, E et F, c'est pas une méthode linéaire, on peut toujours revenir en arrière. Il y a vraiment une flexibilité où on peut donner le primat au qualitatif, au quantitatif, vous voyez. C'est vraiment ce qui fait sa souplesse finalement. Et on peut l'utiliser dans beaucoup de domaines. Donc, c'est intéressant parce qu'en plus, c'est une méthode qui est très récente, comme je vais vous le dire par la suite. C'est une méthode qui date de 2022. D'accord? Donc, voyez un petit peu l'intérêt de s'appuyer sur cette méthode, en tout cas, qui est athéorique. Est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous avez compris la différence entre cette... Vous comprenez bien que, finalement, cette approche d'analyse thématique réflexive, c'est une méthode. Ce n'est pas une méthodologie philosophique. Ce n'est pas une méthodologie qui repose sur une épistémologie où on doit construire son corpus de savoir. C'est une méthode, simplement. Une méthode toute simple pour analyser les données. D'accord ? C'est en ça que j'appelle ça une analyse thématique réflexive. D'accord ? Et athéorique. Est-ce que c'est OK ? J'espère ne pas vous avoir perdu, déjà. Je ne pense pas. Hein. J'essaie d'être très clair, très explicite pour que vous compreniez par rapport à d'autres méthodes, parce que vous comprenez bien que dans l'analyse qualitative, il n'y a pas que l'analyse thématique, et notamment l'analyse thématique réflexive. Il y a d'autres formes. Il y a l'analyse en théorie ancrée, analyse phénoménologique, dont je vous parle maintenant, l'IPA en anglais. Il y a également l'analyse de contenu, qui est beaucoup plus large. Également, il y a l'analyse de traces. Il y a plein de trucs. Voilà, il y a plein de méthodes, en tout cas, qui relèvent de l'analyse qualitative, dont l'analyse thématique réflexive est une d'entre elles, d'accord, parmi tant d'autres. Également, il y a l'analyse de discours. Vous voyez, il y a plein de méthodes dans le qualitatif. Il y a aussi l'analyse interprétative, il y a aussi en sociologie une approche un peu plus constructiviste également des choses. Voilà, il existe plein de méthodes. Donc il faut pouvoir se caler sur la bonne méthode, celle qui vous correspond, celle qui justement qui correspond à votre question de recherche. Vous devez bien répondre à votre question de recherche. Et donc il faut voir si l'analyse thématique réflexive répond bien à cette question de recherche. D'accord ? C'est en ça que c'est important. Oui. Alors, passez pas sur une hypothèse, d'accord ? Parce que dans le qualitatif, on ne s'appuie pas sur une hypothèse, Stan. On s'appuie sur des questions de recherche. avec des sous-questions, bien évidemment, d'accord ? Dans le qualitatif, alors, il y a des professeurs qui enseignent ça en voulant vous faire faire des hypothèses, mais parce qu'ils méconnaissent la méthode, d'accord ? Dans le quali, on ne parle pas d'hypothèses. Les hypothèses, elles sont hypothético-déductives, d'accord ? On va parler de questions de recherche. Et ce qu'on va étudier dans le qualitatif, c'est un phénomène central, un phénomène d'étude centrale qu'on va essayer de comprendre, de décrire, d'analyser, en essayant de comprendre les choses, d'accord ? C'est pour ça qu'on va interroger peu de sujets, dont le but ne sera jamais de généraliser. On va comprendre des individus dans un contexte particulier, d'accord ? C'est ça qui est important. Donc, on n'est pas dans l'hypothèse. Ça, il faut bien le comprendre, d'accord ? Est-ce que c'est OK ? Dites-moi dans le chat. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Ça peut ne vous paraître évident, ce n'est pas facile. En tout cas, le but, c'était pour moi de vous faire situer, voilà, où se situe finalement l'analyse thématique réflexive, d'accord ? Sachant que vous avez certainement entendu parler d'analyse thématique. On vous parle beaucoup d'analyse thématique. Alors très souvent, c'est vrai qu'on peut faire le reproche parfois à des universitaires d'employer l'analyse thématique un peu comme une méthode un peu facile. Justement, comme elle ne relève pas d'une théorie, on peut se dire on peut l'employer à sa sauce, hein, sans qu'elle soit vraiment... Pourtant, elle est probante. C'est vraiment une bonne méthode qui relève vraiment d'une scientificité avec une élaboration très récente, notamment de Brown et Clark, qui sont des psychologues qui ont élaboré et affiné cette méthode et qui l'ont en plus affinée de manière très récente dans des articles scientifiques, dans des ouvrages, notamment un qui date de 2022, qui est un ouvrage thématique analysis, voilà, qui est vraiment un ouvrage extrêmement riche et dont on peut citer, on peut s'appuyer dessus, vous voyez, pour prouver la méthode. OK ? Parfait, Stan, il me dit que c'est très clair. Bon, c'est parfait. Très bien. Super. Alors, en 3, je voudrais également vous dire que dans le qualitatif, il faut également démontrer les critères de qualité, d'accord ? Également de validité, OK ? Et dans la recherche, pour une recherche qualitative, hein, d'accord ? Vous comprenez bien que les critères de validité et de fidélité, on les retrouve où, à votre avis ? Dites-moi à votre avis, où est-ce qu'on retrouve ces fameux critères de validité et de fidélité ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de validité et de fidélité ? Dites-le-moi dans le chat. Où est-ce que vous avez déjà entendu ça ? À mon avis, vous avez déjà entendu. Hein ? Où est-ce qu'on parle, dans quel contexte on parle de validité et de fidélité ? N'hésitez pas à répondre dans le chat ou en commentaire. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Même si vous vous trompez, ce n'est pas bien grave. D'accord ? Mais dites-moi, où est-ce que vous avez entendu parler de validité et de fidélité ? Dans les sources, oui. Mais plus précisément, en fait, c'est dans le quantitatif qu'on retrouve ces mots de validité et de fidélité. Et donc, le penchant, on va dire, pour contrecarrer l'approche quantitative, dans le qualitatif, on va plutôt parler de crédibilité, de transférabilité, de cohérence et d'authenticité. Ce sont 4 expressions, en fait, qui vont vraiment servir l'approche, là, et qui vont mieux permettre de comprendre, vous voyez, vraiment, ce que sont ces 4 mots. Alors, ces 4 segments, la crédibilité, finalement, ça concerne plutôt la précision avec laquelle la recherche va refléter les réalités des participants étudiés. Elle est comparable un peu à la validité interne dans les recherches quantitatives, vous voyez. C'est le penchant de la validité interne dans le quantitatif, d'accord ? Pour assurer la crédibilité, finalement, les chercheurs peuvent utiliser des techniques, par exemple, comme l'entretien prolongé, également la triangulation des données, également la révision par les pairs. On va utiliser peut-être plusieurs codeurs, hein, et pour que les pairs, vos pairs à vous, P-A-I-R-S, puissent revoir les données, puissent les coder en même temps. Également, parfois, pour apporter de la crédibilité, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut revenir vers les sujets après qu'on ait analysé nos données, pour revenir vers eux et leur demander si ce qu'on a trouvé reflète bien ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'on appelle un retour vers certains participants. On ne revient pas vers tous, bien évidemment, mais vers quelques-uns, et ça apporte justement de la crédibilité. D'accord ? C'est vraiment une forme pour apporter de la crédibilité à l'étude. D'accord ? Ça apporte de la validité, donc. Okay ? Et donc de la réflexivité. Le but est de s'assurer, avec cette crédibilité, que les conclusions tirées sont fidèles aux exigences des participants. Alors, l'autre terme, c'est la transférabilité. Alors, ce terme, finalement, se réfère plutôt à la mesure dans laquelle les résultats d'une étude peuvent être appliqués à d'autres contextes, dans d'autres sites, d'autres contextes, vous voyez, d'autres groupes, par exemple, ou d'autres sujets. En fait, cette transférabilité, elle est un peu similaire à ce qu'on appelle la généralisabilité, vous voyez, ce qu'on appelle de vouloir généraliser les résultats dans le quantitatif. C'est le penchant, vous voyez. On va parler plutôt de transférabilité, parce qu'on ne pourra pas généraliser, parce que ce n'est pas le but de généraliser dans le quali, vous voyez. Alors, bien que la recherche qualitative se concentre souvent dans des contextes spécifiques, la transférabilité permet en fait au lecteur de juger de la pertinence de vos résultats pour d'autres situations, pour fournir une description détaillée du contexte de l'étude et des participants, et surtout du processus de recherche, qui va aider les autres chercheurs à évaluer finalement la transférabilité des résultats. Hein. Donc c'est un élément important, il faut que les éléments soient transférables, sans forcément qu'ils soient généralisables. D'accord ? Après, on a la cohérence aussi, qui est importante. La cohérence, en fait, c'est le penchant de la fiabilité ou de la fidélité dans le quantitatif. Vous voyez ? Parce que dans le quantitatif, en fait, c'est la mesure à laquelle la mesure pourrait être répétée. Rappelez-vous, dans le quantitatif, on parle de répéter les mesures le temps, puisqu'on on va refaire passer les échelles dans le temps, à quelques jours après ou quelques semaines après, hein, pour voir si les données ont évolué, si les participants ont évolué dans leur pensée, dans leur réponse. D'accord ? Et là, on va voir s'ils aboutissent à des résultats similaires. Donc, en s'assurant une documentation complète du processus de recherche et des décisions prises, en fait, les chercheurs peuvent contribuer à une meilleure compréhension de la cohérence de l'étude. Vous voyez ? Et donc, cette cohérence, finalement, elle souligne l'importance de l'application systématique des méthodes et de la clarté dans le rapport des résultats. D'accord ? Donc, c'est vraiment l'idée de mesurer dans le temps les résultats, et c'est le penchant, finalement, de la fidélité et de la fiabilité. Enfin, l'authenticité, finalement, ça se réfère à la profondeur, vous voyez, avec laquelle une étude aborde les différentes réalités des participants. Là, on va chercher à aller en profondeur et également à la mesure dans laquelle elle permet aux voix de ceci de se faire entendre, vous voyez. C'est vraiment une recherche qui est considérée comme authentique lorsque les chercheurs parviennent à représenter fidèlement une multitude de pensées et d'expériences, vous voyez. On aime bien avoir plusieurs expériences, plusieurs vécus subjectifs. Donc cela inclut bien sûr la présentation également de conflits ou de contradictions dans les données, d'accord. On peut interroger des gens, c'est pour ça parfois qu'on va interroger des cas qu'on va qualifier de cas extrêmes, de cas qui diffèrent des autres, vous voyez. On a un cas sur les 10 qu'on a interrogés. Eh bien, il ne dit pas la même chose. Donc, c'est un cas extrême. Donc, c'est intéressant également de trouver des cas qui sortent de la norme. D'accord ? On appelle ça des cas extrêmes dans le qualitatif. Donc, cette authenticité, finalement, elle encourage également la prise d'action, vous voyez, et le changement en réponse aux découvertes de la recherche qui vont souligner l'impact de l'étude au-delà de la sphère académique. D'accord ? Donc, en tout cas, ces quatre éléments sont extrêmement importants à prendre en compte, vous voyez, pour apporter de la validité et de la fidélité à l'étude. Donc, ce sont quatre éléments du qualitatif, d'accord ? Tous les jours au boulot, exactement, tout à fait. Et oui. Donc voilà, en tout cas, pour cet aspect. Alors, en quatre, ce qui est important également, c'est l'importance de la réflexivité. Alors, c'est vrai que vous vous dites, mais c'est quoi, Christophe ? Tu nous parles de réflexivité, mais c'est quoi ? Nous, on avait déjà entendu parler d'analyse thématique, mais... C'est quoi l'analyse thématique réflexive ? Qu'est-ce que ça apporte de plus, ce fameux adjectif, finalement ? En quoi elle est réflexive ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, finalement ? Hein ? En fait, l'analyse thématique réflexive elle va insister sur la réflexivité du chercheur tout au long de son processus d'analyse. Donc, cela va signifier une prise de conscience continue de la manière dont les propres perspectives, expériences et également ses préjugés peuvent influencer son interprétation, vous voyez. Donc, il y a vraiment une subjectivité du chercheur. Donc, une subjectivité qu'on va accepter, parce que parfois, dans le quantitatif, on va tout faire pour réduire les biais du chercheur. On va vouloir à tout prix être objectif. Eh bien là, on va accepter cette subjectivité du chercheur, d'accord. Et donc, Brown et Clark, qui sont donc à l'œuvre dans cette méthode particulière, qui a été élaborée, comme je vous le disais, en 2022, elles soulignent, ce sont deux autrices, elle souligne que cette réflexivité, elle est cruciale pour que la rigueur et la richesse de l'analyse permettent finalement aux chercheurs de rester ouverts, d'accord ? Et ouverts aux données qui vont être révélées, vous voyez, au-delà de ses attentes. Hein ? Et donc, c'est un peu comme ce qu'on pourrait appeler une position méta, vous voyez, une position de prise de distance. On se regarde comment on va analyser, vous voyez, on se regarde analyser les données, d'accord ? Mais c'est une inclusion de la subjectivité du chercheur, d'accord ? C'est une position méta, mais qui accepte que le chercheur inclut sa propre subjectivité, d'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, avec cette définition ? Est-ce que ça vous choque, le fait qu'on puisse accepter sa propre subjectivité ? Oui, c'est très important. Et pourtant, toi, Marilyn, dans ton domaine, hein, l'astronomie, la science, on te demande quand même plutôt d'être objectif. Donc, c'est quand même bien aussi que tu puisses y mettre de ta propre subjectivité. Hein. C'est intéressant que tu nous dises que même dans ton domaine, qui est hyper scientifique, on ne peut plus, quand même, il y a toujours cette part de subjectivité au-delà. Donc, on peut l'employer au-delà des sciences humaines et sociales, hein, mais évidemment. Hein. D'accord ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept de réflexivité dans l'analyse thématique réflexive ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Et enfin, finalement, je voudrais vous indiquer finalement cette... Je voudrais vous préciser la récence de cette méthode, finalement, dans les thématiques réflexives, comme vous voyez, qui date de 2022, avec un fameux ouvrage qui a été élaboré par ces deux psychologues, hein, qui s'appelle « Thématique analysis » de Brown et Clark, qui sont deux psychologues, finalement. Oui, alors non, c'est pas donner son avis. Non, c'est pas ça. On ne donne pas son avis. On interprète les données, on accepte la subjectivité du chercheur, mais on ne donne pas son avis. D'accord ? On essaie de rester objectif, mais tout en mettant de sa propre subjectivité, sans donner son avis. D'accord ? C'est pas tout à fait ça. D'accord ? Alors, Brown et Clark, finalement, vous voyez, ce sont deux chercheuses qui ont vraiment élaboré cette démarche avec des dernières évolutions. Elles ont constamment peaufiné leur approche, finalement, de l'analyse thématique. Et leur dernière version date de 2022. Elle intègre, finalement, des réflexions et des retours de la communauté scientifique qui va offrir, finalement, une méthodologie encore plus robuste et adaptable. Alors, il s'agit, finalement, d'adapter au nouveau contexte de recherche. Alors, cette version récente de 2022, elle prend en compte les défis actuels et les opportunités dans la recherche qualitative en soulignant l'importance de l'adaptabilité méthodologique face à des données de plus en plus diverses et complexes. Alors il y a vraiment, comme je vous l'ai dit, un engagement envers la réflexivité. Alors cette édition 2022, elle met un fort accent sur la réflexivité du chercheur, un principe clé pour assurer la rigueur et l'intégrité dans l'analyse thématique réflexive. Alors cela reflète bien évidemment une compréhension profonde de l'interaction entre le chercheur et les données et son corpus. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire en tout cas par rapport à ces 5 points qui me paraissent cruciaux. Hein. Et je voudrais vous présenter maintenant rapidement ma formation que je propose en tout cas et que j'ai ouvert en tout cas, qui a démarré hier et dont je vous propose en tout cas une offre promotionnelle pour une nouvelle session et qui se terminera lundi prochain, 8 avril à 23h59 heure de Paris, date à laquelle finalement je terminerai cette promotion. Donc j'ai créé ce programme-là justement basé sur cette approche de Brown et Clark qui est toute récente et qui va vous permettre justement de réaliser ce qu'on appelle une analyse thématique réflexive. D'accord ? Alors, je vous ai indiqué un petit peu la méthode. Et alors, ce programme, il est pour vous, bien sûr, pour les étudiants et les doctorants, les débutants dans le domaine du qualitatif, également les enseignants et les formateurs qui voudraient pouvoir encadrer des étudiants ou peut-être pour eux-mêmes, hein, qui ont le projet peut-être de mener une analyse thématique prochainement. Hein. Alors, vous me connaissez, hein, je suis psychologue de la santé, je suis docteur en psychopathologie. J'ai fondé Méthode de Recherche il y a 9 ans. Bon, ça, vous le savez, d'accord ? Si vous êtes là, c'est que vous me connaissez. Donc, je vous aide finalement à réussir brillamment vos mémoires, vos thèses et vos articles scientifiques. Alors, finalement, c'est quoi cette analyse thématique réflexive ? Même si je vous ai glissé quand même quelques mots. En fait, c'est une méthode particulièrement adaptée pour traiter des données riches en informations et qui va offrir des éléments récurrents et ambigus. On va chercher les thématiques, les patterns, ce qui se répète dans les corpus de données, voyez ? Donc cette méthode, finalement, elle permet de dégager des thèmes centraux et transversaux dans les données en prenant en compte les dimensions subjectives, contextuelles et intersubjectives des données. Alors c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une méthode qui est extrêmement souple, athéorique, qu'on peut employer à la fois dans une approche inductive ou déductive. C'est ça qui fait sa souplesse, voyez. Et on peut justement argumenter en s'appuyant sur les données scientifiques de Brown et Clark, quand on va justifier la méthode. Alors voilà les bénéfices de ce programme-là, c'est que vous accéderez à une méthode moderne et novatrice, guidée et étape par étape, qui a été développée donc par deux expertes de l'analyse qualitative, qui sont Brown et Clark, 2022. Vous apprendrez une méthode polyvalente, qui peut être appliquée indépendamment du logiciel. Alors c'est ça qui est important pour moi, c'est que je ne veux pas vous indiquer tel logiciel à appliquer, je veux vous apprendre la méthode, et après, libre à vous, à appliquer ça, de manière libre, avec une analyse qualitative à la main, en soulignant, avec des stabilos, ou alors en utilisant un logiciel. C'est libre à vous, mais il faut que vous compreniez d'abord la méthode. Si vous ne comprenez pas la méthode, vous ne pourrez jamais faire une analyse qualitative, que ce soit à la main, au stabilo, ou alors avec un logiciel. Il faut que vous compreniez d'abord les fondations de la méthode d'analyse qualitative, notamment réflexive, d'accord ? Également, vous gagnerez en confiance en maîtrisant une approche complète qui vous permettra d'explorer et de comprendre pleinement vos données de recherche, vous bénéficierez d'une méthode claire et structurée, comme je peux vous le dire. Vous développerez des compétences transférables qui vous serviront par la suite, qui pourront bien sûr enrichir votre CV au-delà de réaliser votre analyse thématique pour votre année universitaire. Vous recevrez bien sûr des conseils et des recommandations basés sur les meilleures pratiques. Également, vous bénéficierez d'une approche pédagogique engageante, innovante, avec des exemples que moi j'ai pu mener, puisque j'ai pu mener moi-même une analyse thématique, et je vous montrerai sur mes données comment j'ai pu faire. D'accord ? Voilà, donc le programme qui se déroule en 10 étapes avec 10 modules que je vous délivrerai, comme je le précise ici, tous les 3 jours, sachant que si vous voulez aller plus vite, je pourrais tout à fait vous débloquer les contenus, comme la formation est déjà faite, parce que très souvent, je bloque les contenus tous les 3 ou 5 jours parce que je fais la formation au fur et à mesure. Mais là, ce n'est pas le cas, elle est réalisée, je l'ai déjà construite. Donc, si vous voulez aller plus vite, si vous avez à rendre rapidement votre écrit ou votre article, je pourrais vous libérer les contenus, vous délivrer le contenu entièrement si vous m'en faites la demande, d'accord ? Mais sinon, le contenu sera délivré tous les 3 jours si vous voulez aller normalement et suivre le rythme de la formation, d'accord ? Il y aura également 2 sessions de questions-réponses où on pourra échanger. Vous aurez un groupe WhatsApp et vous aurez un accès à vie et aux mises à jour. Sachant que je voudrais vous annoncer ce soir que c'est la dernière fois où je propose ce programme-là avec une formation, avec une mise à jour et un accès à vie. Par la suite, je vais changer de modèle. Je l'avais dit l'année dernière, mais cette fois, à la fin de cette année universitaire, je passerai à un modèle par abonnement. Donc, je ne proposerai plus de lancement. J'arrêterai de faire des lancements toutes les semaines parce que c'est coûteux pour moi. C'est embêtant pour vous de recevoir des offres constamment. Et donc, je vais changer complètement le modèle. Donc, si vous voulez vous procurer la formation, si vous avez peut-être l'année prochaine à faire une aide qualitative, pas forcément cette année, vous pouvez vous la procurer maintenant et vous aurez accès aux mises à jour. Mais sachez que vous n'aurez pas accès à la formation si vous voulez vous la procurer l'année prochaine. C'est maintenant ou jamais, d'accord ? Donc, sachez que vous avez aussi une participation de 15 heures. Vous aurez une attestation à faire valoir, notamment si vous êtes dans une école doctorale et que vous devez faire des heures de formation. Également, vous pouvez tester la formation 15 jours et me dire, voilà, je ne suis pas satisfait, je demande le remboursement. Et je vous rembourserai sans rien vous demander. Voilà, donc, en tout cas, sachez que vous avez jusqu'à lundi 8 avril, jusqu'à minuit, donc 23h59 heures de Paris, GMT plus 2. Et comme je vous l'ai dit, je ne proposerai plus jamais cette formation à ce tarif réduit et avec les mises à jour. Voilà. Donc, je vous invite à cliquer en bas dans le lien, dans la description, et à me rejoindre dans cette formation. Et surtout, allez voir cette page de vente que je vous invite à aller voir. Je vous mets le lien là. Hein, d'accord ? Je vous mets le lien. Hop. Voilà. Je vous invite à cliquer sur le lien pour aller voir la page de vente. Ou alors à cliquer sur bit.ly/entref. D'accord ? Merci beaucoup. Mais il faut me faire une demande par mail, simplement. Une fois que vous avez acheté la formation. Par contre, ça demande 2 conditions, que vous ayez réglé le programme en une seule fois et également que vous renonciez à la garantie satisfait ou remboursée. D'accord ? Ce sont les 2 conditions pour lesquelles je peux vous débloquer le contenu. Avoir payé en une seule fois et renoncer à la garantie satisfait ou remboursée. Ça paraît logique, bien sûr. Hein ? D'accord ? Donc voilà, donc je vous invite à aller voir le lien en bas ou alors à taper dans votre barre de tâches, dans l'URL, vous pouvez taper cette URL-là que je vais vous afficher là, voilà. bit.ly/entref, mais vous avez le lien en bas dans la description de cette vidéo ou en commentaire. Vous aurez un accès direct à la page de vente et je vous invite vraiment à lire en profondeur parce que vous avez tous les dedans. Tous les aboutissants, en tout cas, de mon programme, si je ne vous ai pas donné assez d'informations, vous avez même une FAQ, une FAQ, les questions fréquemment posées auxquelles je réponds. Vous vous posez peut-être des questions, peut-être, et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, je peux vous répondre. Vous n'hésiterez pas à m'envoyer un mail à contact@methodrecherche.com et je vous répondrai dans la foulée, immédiatement, d'accord ? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça ? En tout cas, sachez que vous avez le lien en bas. Je vous invite en tout cas à cliquer sur le lien pour aller voir la page de vente. Est-ce que vous avez des questions sur la liste thématique ou sur le programme, hein ? C'est gentil, Stan. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes le meilleur prof que j'ai connu. Ça fait plaisir. Je reçois souvent de gentils messages dans ce sens-là. Ça me fait plaisir. Ça m'invite à continuer parce que parfois, je me demande. C'est très compliqué, mais tu m'expliques bien. Donc, ça va mieux. Non, ça va. Merci Marilyn. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Alors, je suis passé vite sur les 5 points, mais c'est important pour moi de vous évoquer, en tout cas, 5 secrets. Enfin, ce ne sont pas des secrets, ce sont des points importants qu'il faut connaître quand on aborde l'analyse thématique, notamment l'analyse thématique réflexive. Parce que c'est nouveau, très peu connaissent cette méthode. D'ailleurs, si vous demandez à beaucoup d'enseignants, c'est quoi l'analyse thématique réflexive ? Ils ne savent pas. Alors, l'analyse thématique, oui, parce qu'ils ont entendu parler d'analyse thématique, même s'ils ne savent pas la faire, voilà, ils imaginent bien qu'on va coder les segments, après on va élaborer des thèmes Voilà, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'analyse thématique réflexive, puisque c'est une méthode qui est nouvelle, qui a été élaborée, voilà, qui vient du monde anglo-saxon, qui a été élaborée par Brown et Clark dans un ouvrage qui est un peu ardu, un peu costaud, en anglais, donc très peu vont s'y ressourcer. Moi, j'ai lu cet ouvrage, je l'ai assimilé, je l'ai mis en œuvre, et donc j'essaie en tout cas de vous le vulgariser, de vous le mettre à portée pour vous retranscrire la méthode, d'accord ? C'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas. C'est pour ça que c'est une méthode qui est originale en francophonie, puisque ça n'a jamais été fait. Combien ? Alors, il n'y a pas de. Ça va dépendre de votre objet de recherche, d'accord ? Mais en tout cas, il n'y a pas de limite. Comme je vous l'ai dit, dans le qualitatif, on n'a pas besoin de beaucoup de sujets, d'accord ? En principe, on va interroger quelques sujets, entre 3 et 5, notamment lorsqu'on finit la liste qualitative. Après, on peut aller jusqu'à 10 sujets, mais très rarement plus, d'accord ? Par contre, on va interroger beaucoup plus de sujets quand on est dans un but de vouloir théoriser. Quand on veut théoriser, on a besoin de beaucoup de sujets. C'est notamment le cas de. La grounded theory, la théorie ancrée, là on a besoin de beaucoup de sujets parce que tous les soirs on va revoir son guide d'entretien, on va le modifier et repartir pour aller recruter encore et pour aller changer le soir, pour coder les données, voir d'autres choses, d'autres patterns, et on va repartir le lendemain pour jusqu'à obtenir ce qu'on appelle la saturation théorique, d'accord ? Par contre, dans la liste compréhensive, on va dire la liste thématique, on n'a pas besoin de beaucoup de sujets, d'accord ? Je vais dire quelques sujets suffisent, puisqu'on va essayer de comprendre les sujets en profondeur. Et le but n'est pas de généraliser, vous comprenez bien. Dans le quanti, il nous faut beaucoup de sujets parce qu'on va vouloir généraliser. D'accord ? Là, le but, c'est de comprendre. Il vaut mieux comprendre peu de sujets, mais en profondeur. On va aller en compréhension. C'est ça, cette démarche compréhensive. Parce qu'on cherche à être descriptif. C'est ça, la démarche qualitative. C'est pour ça qu'on l'appelle démarche qualitative ou démarche descriptive. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Stan ? Alors vous n'êtes pas curieux ce soir, vous êtes fatigué ce soir. Hein. Et moi aussi un petit peu de ma semaine, mais bon. On va aller un week-end après. En tout cas, je vous remercie d'être avec moi encore ce soir. Je me pose toujours la question à savoir si le vendredi est un jour... Il n'y a pas de jour idéal, bien sûr, parce que chacun a ses obligations. J'ai toujours fait mes lives le vendredi. Peut-être devrais-je essayer un autre jour éventuellement. En début de semaine, pourquoi pas. Pourquoi pas le mardi. À voir. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être ? Est-ce que j'ai répondu à votre question, Stan ? Oui, c'est très bien le vendredi. Bon, d'accord. Je pense que je vais rester quand même le vendredi. Même si on est un petit peu fatigué, 9h, 10h, bon. Puis ça me permet, quand je fais mes lancements aussi, de pouvoir proposer mon offre aussi, le jour après, puisque je fais le lancement le jeudi, le vendredi. Après, je fais ce live et après, je clôture soit le dimanche, soit le lundi. Oui, et par exemple, peut-on interroger ? Oui, absolument. Quand on parle de sujets, ce sont des participants, des groupes, absolument, tout est faisable, hein, exactement. Hein. Quand on parle de participants, ça peut être des groupes, ça peut être un groupe d'enseignants ou les élèves, mais il faut répondre à la question de qu'est-ce que vous voulez trouver. Donc toujours cette fameuse question de recherche qui est primordiale, c'est elle qui va orienter vers là où les méthodes. Il faut que vous répondiez à la question de recherche, d'accord ? Mais en faisant attention aussi à ne pas vouloir après trouver ce que vous voulez trouver pour les confirmer, d'accord ? Il faut éviter ce biais de confirmation du chercheur, qu'on a tous tendance à vouloir confirmer nos questions de recherche. Est-ce qu'on veut trouver ? Il faut enlever ces préconceptions. Absolument. Le but, c'est de retirer différents points de vue et peut-être aussi faire des approches comparatives. Hein. Je sais que dans le qualitatif, ce n'est pas très couru. J'ai trouvé un article récemment que j'ai utilisé moi dans ma recherche et qui justement montrait que dans le qualitatif, on faisait beaucoup moins de comparaisons que dans le quantitatif. Pourtant, c'est intéressant de comparer des sujets, comparer des groupes qui sont différents. Donc, il y a peu d'approches comparatives. Mais c'est intéressant. Tout à fait, donc. Non, d'accord. D'accord. Ça aide à terminer la semaine avec toi, c'est gentil. Merci, Marilyn. Bon, je vais rester alors le vendredi, je me pose la question. En tout cas, rien n'empêche que je ferai peut-être aussi un autre live en début de semaine, mais différent peut-être de cette nocturne, à voir. Je vais également passer le matin, je sais que certains font des lives le matin. Alors là, c'est bien sûr dans notre niche, je suis dans le marketing, il y a des matinales qui se font entre 8h et 9h. Ça me paraît un peu délicat peut-être, je testerai peut-être un jour. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas l'ordre du jour. Je suis plutôt du soir, je me lève tôt le matin, hein. Mais faire un live le matin, ça me paraît délicat. À voir. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être auxquelles je pourrais répondre, peut-être soit sur l'analyse qualitative, soit sur le programme que je propose. N'hésitez pas. Je suis là pour répondre. Ok, c'est clair. Avec plaisir, Stan. Ce que je voudrais vous dire également sur le qualitatif, c'est que C'est pas facile. Très souvent, on pense qu'on veut faire du qualitatif parce qu'on n'est pas bon dans le quanti. Hein. Très souvent, c'est ça. Il y en a qui me disent, oui, Christophe, moi, je vais me lancer plutôt dans le qualitatif parce que je suis pas bon en statistique. Mais c'est pas évident de faire du bon qualitatif. D'ailleurs, il y a un enseignant, un professeur à moi en master, hein, quand je suis arrivé en master, qui m'avait dit, pour faire du qualitatif, il faut que ce soit très bien fait. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par très bien fait? Il faut comprendre la méthode. Sinon, on fait n'importe quoi. On finit redonner ce qu'on veut leur faire dire. Vous voyez, on fait n'importe quoi. Donc, il faut maîtriser la méthode. Et trop souvent, les chercheurs et les apprentis-chercheurs ne maîtrisent pas la méthode. Et donc, ils font n'importe quoi. Donc, ça ne tient pas la route. Vous voyez? Et ça, les reviewers et vos encadrants le voient. Ils voient bien que vous avez essayé de faire un truc, c'est une mesclagne, ça ressemble à rien. Donc, voilà, vous n'avez pas compris la méthode. Très souvent, parce qu'on veut utiliser un logiciel, comme on ne comprend pas les tenants et les aboutissants de la méthode, on croit qu'en comprenant les fonctions du programme, on va y arriver. Mais non, malheureusement, si vous ne comprenez pas la méthode, vous allez faire n'importe quoi. Ça ne mènera à rien. Là, il faut le temps de mixer tout ça, exactement. C'est plus clair. Merci, Marilyn. Eh bien, très bien. Ben, si vous n'avez pas de questions, on va rester là, on va finir avant 10 h. Ça n'est jamais arrivé. On a toujours terminé à 10 h, mais en tout cas, si, voilà, si vous n'avez plus de questions, je crois que je vous ai présenté l'essentiel. J'ai répondu, je pense, à vos questions. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et oui. Mais c'est bien d'en prendre conscience aussi, hein, de se dire, voilà, maintenant vous savez, vous connaissez, maintenant vous allez vous former et vous ne referez pas deux fois la même erreur. C'est important. Mais c'est formateur aussi, hein. Et puis il y a les limites du chercheur. On n'a pas le savoir infus, hein. C'est vrai que voilà, ça demande de se former, d'apprendre, et on apprend tous les jours. Hein. Moi-même, je lis beaucoup et j'apprends tous les jours de nouvelles choses. Et j'essaie, moi, de vous les transmettre après. De vous faire comprendre, vous transmettre ce que j'ai pu, moi, comprendre des choses. Alors, c'est pas évident de faire passer le savoir du monde anglo-saxon en francophonie, parce qu'on n'a pas la même culture, pourtant, il y a quand même des similitudes. Dans le monde anglo-saxon, on est plutôt dans une approche fonctionnaliste. On voit ce qui fonctionne, ce qui marche. Alors qu'en France, encore, on est plutôt dans des approches toujours théoriques, déductives, vous voyez, positivistes, hein, où on a du mal à faire confiance au qualitatif. On pense que ça ne relève pas de la scientificité, vous voyez, ce n'est pas assez scientifique. On est toujours dans cette approche positiviste, hypothético-déductive, vous voyez. Pourtant, l'approche qualitative, quand elle est bien faite, quand elle est rigoureuse, c'est ce mot de rigoureux, vous voyez, de rigoureux, hein, qui est important. Et si vous revenez sur ce que j'ai pu dire, hein, ces histoires-là, je reviens sur ça, hein, qui était important, hein, ces concepts, vous voyez, ça me paraît très important, hein, de crédibilité, de transférabilité, de cohérence et d'authenticité. Quand c'est fait comme ça, de cette manière-là, ça apporte de la validité. C'est comme ça qu'on montre que notre étude tient la route. Si, c'est à nous à montrer que notre étude tient la route. C'est pas à nos encadrants et à ceux qui nous lisent de découvrir si ça tient la route ou pas. C'est à nous à prouver dans la partie méthode comment on a réalisé. Parce que vous comprenez bien qu'on a l'idéal. Dans la partie méthode, il faudrait pouvoir dire comment vous avez réalisé ça pour que d'autres chercheurs puissent la refaire à leur place. Le but, c'est que la méthode soit reproductible, vous comprenez bien. C'est ça le but d'une recherche. C'est transmettre ce qu'on a fait, dire ce qu'on a fait, comment on l'a fait, c'est le but de la méthode, pour qu'après d'autres chercheurs puissent répéter la même étude et dans l'idéal, pouvoir reproduire les résultats, voir s'ils sont identiques ou pas, et expliquer pourquoi les résultats sont similaires ou différents. D'accord? Pour tenter d'en discuter, parce que ce qui est intéressant, finalement, c'est la discussion, le revenir à la littérature existante, c'est ça qui est intéressant, vous voyez? Et après, c'est intéressant aussi, quand on a trouvé des thématiques, de pouvoir confronter nos thématiques à ceux d'autres chercheurs, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs dans le monde anglo-saxon qui ont mené des études dans vos thématiques, qui ont déjà trouvé des thèmes, vous voyez? Et ça serait bien de les confronter. Voilà ce que nous, on a trouvé en francophonie comme thème, et on va les confronter à ceux de la littérature existante. Et ça, on va le faire dans la partie de discussion. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pas nos résultats, c'est comment on va en discuter après. Ça, je le disais dès le webinaire dernier, ce qui est important, cette histoire de problématique de recherche, ce que l'on veut savoir, cette originalité, faire l'étude, mais après surtout, comment on va en discuter. Ce fameux retour à la littérature. Confronter nos résultats à ceux de la littérature existante. D'accord? Marilyn me dit, j'ai pas de questions. Et je vais partir plutôt. Oh, d'accord. Tu as raison. Merci, Marilyn. Stan me dit comment ne pas répondre. Non, mais parfois, quand on a le qualitatif, on ne répond pas à la question de recherche. Pourtant, il faut s'y caler dessus. Parce que dans le qualitatif, on va avoir une question de recherche et plusieurs sous-questions. Et en fait, ces fameuses sous-questions, elles vont refléter la question principale, la question de recherche. D'accord? On est dans une question définitive. Je ne parle pas de question de départ. Hein. Et en fait, on va avoir plusieurs sous-questions. Et on va après essayer de comprendre les thèmes. Ils vont refléter les sous-questions. Vous voyez? Donc, il faut toujours avoir un certain nombre de sous-questions qui vont venir élaborer cette question de recherche. Alors, ça fait partie de la méthode. Je ne peux pas vous l'enseigner là. Ça fait partie d'une méthode. Ça s'apprend. Hein. C'est la méthode que j'enseigne dans la formation. Comment traiter les données qualitatives. On peut les donner. On peut traiter les données avec plusieurs méthodes. Et moi, j'enseigne ce qu'on appelle l'analyse thématique réflexive. D'accord. Il y a d'autres méthodes. La théorie ancrée, l'analyse interprétative phénoménologique, l'IPA, l'analyse de discours. Voilà, plein de méthodes, en tout cas, qui permettent de traiter les données, dont l'analyse thématique réflexive est une des méthodes. Il y a plusieurs méthodes. Ah, tu veux pas partir plus tôt? D'accord. Je croyais que tu voulais partir plus tôt. Ça m'étonnait aussi, mais dis. Ok. Très bien. Ouais, bien intégré, exactement, tout à fait. En tout cas, retenez ça, pour moi, c'est le plus important, cette histoire-là, que c'est une histoire de crédibilité, de transférabilité, de cohérence et d'authenticité. Ça reflète ce qu'on peut appeler, comme je vous l'ai dit, la validité et la fidélité dans les questionnaires. Comprenez bien que quand on parle de questionnaires quantitatifs, on va demander la validité de contenu, la validité de construit, quelle est la validité temporelle, la stabilité temporelle, les alphas from back, tout ça, c'est dans le quantitatif. Par contre, pour apporter de la crédibilité à l'étude dans le quali, eh bien, il faut s'appuyer sur ces quatre éléments dont je vous ai présenté chacun. Voyez, c'est ça qui permet de montrer la robustesse du qualitatif. Sinon, ça serait trop subjectif. Donc, il faut apporter de la crédibilité, voir qu'elle est transférable, sans forcément qu'elle soit généralisable, puisque ce n'est pas le but, qu'elle est cohérente et qu'elle est authentique. D'accord ? C'est vrai que malheureusement, Mahamadou, bonsoir, mais je ne peux pas répondre à cette question. Voilà, ça demande une formation complète. C'est le but, en tout cas, de mon programme que je propose, si ça vous intéresse, si vous pensez que ça peut vous être utile. Libre à vous, en tout cas. N'hésitez pas à revoir le webinaire, si ça peut vous correspondre, quand vous êtes arrivé un peu en retard. Mais pour revenir à mon idée, c'est vrai que ce n'est pas facile de faire du qualitatif. Donc ne faites pas ça par facilité en vous disant « oui, je ne maîtrise pas le quanti, eh bien je vais faire du quali ». C'est toujours, comme je le dis, c'est la question de recherche qui va orienter vers là où les méthodes. Et surtout, ne vous trompez pas. N'allez pas faire du quali quand la question de recherche demande du quanti, et vice-versa. Hein ? Alors non. Non. Alors dans le principe, quand on finalise des contenus, le guide d'entretien reste le même. D'accord ? Par contre, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, généralement, quand on emprunte la théorie ancrée, la grounded theory, là, on va changer les éléments du questionnaire, le guide d'entretien. D'accord ? Par contre, quand on fait une analyse de contenu, généralement, le guide d'entretien semi-directif, parce qu'on appelle ça des questions semi-directives, un guide d'entretien, c'est pas un questionnaire, c'est un guide d'entretien où on va avoir des questions toujours ouvertes. Ou alors des thématiques. Et où ? On peut avoir aussi des questions et des thématiques à aborder. Et on ne va pas forcément les aborder dans l'ordre, vous voyez ? On peut tout à fait, si le sujet aborde de lui-même une thématique que vous aviez prévu d'aborder, on ne va pas y revenir, puisque ça a déjà été fait. Alors qu'un questionnaire, on va l'aborder de manière dans l'ordre, d'accord ? Ça, c'est important à comprendre, hein, d'accord ? Quand on fait une analyse thématique, en principe, le guide d'entretien ne va pas bouger. On va toujours interroger le sujet avec le même guide d'entretien. D'accord ? Voilà. Mais par contre, comme je vous le disais, quand on fait la théorie ancrée, oui, le but c'est de revenir le soir, d'analyser les données, de voir ce qu'on a interrogé, on dit, de pouvoir modifier le guide d'entretien pour partir et pour rebondir sur autre chose, d'accord ? Jusqu'à obtenir après la saturation théorique. Mais par contre, l'analyse en théorie ancrée, la grounded theory, ça demande des années de pratique et c'est extrêmement compliqué puisque c'est la plus difficile de l'analyse qualitative à faire puisque c'est celle qui demande pour créer une théorie alors que notre but dans l'analyse thématique, c'est pas de créer une théorie. On veut répondre à une question de recherche, on veut créer une thématique, trouver des patterns. Le but n'est pas de théoriser. Bien sûr, c'est l'idée quand même de commencer à théoriciser, à créer une petite théorie, à comprendre quelques aspects théoriques, mais ce n'est pas le but de créer une théorie. Alors que dans la théorie ancrée, c'est le but. D'accord ? Donc ça demande de se former à la théorie ancrée, mais pour ça, malheureusement, voilà, ça demande des années de pratique. Et je vous déconseille de faire une théorie ancrée parce que c'est trop compliqué. Il vaut mieux faire une bonne analyse thématique, notamment réflexive, qu'une mauvaise théorie ancrée. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu faire une théorie ancrée, qui se sont plantés, qui ont commencé à faire, voilà, ils ne maîtrisaient pas la méthode et ils n'ont jamais réussi à théoriser, à obtenir quelque chose de supraordonné et d'arriver au bout finalement du codage axial. Quand on va au-delà, on n'arrive pas à théoriser après, c'est impossible. Donc voilà, ne vous perdez pas, ne faites pas ces erreurs-là, maîtrisez des méthodes que vous pouvez maîtriser, que vous pouvez apprendre en temps imparti assez rapidement et voilà, soyez modeste dans votre approche, justifiez vos méthodes et vous y arriverez. Mais ne vous lancez pas dans des trucs qui sont infaisables, d'accord ? Alors, la saturation théorique, c'est en fait ce qu'on appelle dans l'analyse qualitative, où en fait, quand on va recruter les sujets, on se rend compte qu'à un moment, le recrutement que l'on fait n'apporte plus de nouvelles thématiques, de nouveaux patterns. Et donc, on stoppe le recrutement. On stoppe d'interroger les sujets. C'est ça qu'on appelle la saturation théorique. On appelle ça un échantillonnage théorique. On s'arrête, on arrête de recruter les données, on arrête d'interroger les données, et donc on arrête de coder, quand on a atteint cette saturation théorique. On voit que nos entretiens qu'on fournit au fur et à mesure pour alimenter nos thématiques, on ne trouve plus de nouveaux patterns, de nouvelles thématiques. D'accord ? Et c'est ça qu'on appelle la saturation théorique. Alors, je pense que cette analyse, eh bien, oui. Alors, je ne peux pas vous le confirmer. C'est pas possible. Vous devez demander à votre encadrant si ça relève l'analyse thématique. Moi, je ne prendrai pas le risque de vous dire oui, ça en relève. Vous devez, en tout cas, c'est à vos encadrants de vous dire s'ils pensent que ça relève et après, ils doivent vous guider. D'accord ? Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras et je ne veux pas vous dire oui, ça relève. Non, pas du tout. Hein. Vous connaissez mon intégrité, mon honnêteté. Je ne veux pas vous pousser à suivre la formation. Si ça ne relève pas de votre question, ne faites pas l'analyse thématique réflexive. Par contre, si ça relève, pourquoi pas ? Engagez-vous, mais en connaissance de cause. D'accord ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il nous reste 6 minutes. Est-ce que c'est clair, l'analyse théorique ? La saturation théorique, Marie-Lyne, tu as compris cette histoire de saturation ? Et notamment, elle est vraiment utilisée en théorie ancrée, hein, dans la grounded theory. Hein. Comprenez bien que quand on va modifier le guide d'entretien tous les soirs, qu'on revient avec des sujets, qu'on va analyser nos données, trouver des patterns, à un moment, on va s'arrêter. C'est vraiment un terme qui est issu de la théorie ancrée. La saturation théorique. Oui, c'est difficile. Hein. C'est très dur, le qualitatif. Hein. Et surtout la théorie ancrée. C'est pour ça que je vous déconseille de vous tourner vers la théorie ancrée. Vous pouvez vous tourner vers la théorie ancrée si vous avez une thèse à faire, si vous avez 3 ou 6 ans, si vous avez beaucoup de temps à consacrer, si vous formez, parce qu'il n'y a pas de formation en France, en francophonie, qui forme à la théorie ancrée. C'est très orienté vers le monde anglo-saxon. Il y a des ouvrages, mais uniquement en anglais. Il y a juste une vulgarisation de Pierre Payet qui a fait un petit chapitre sur son ouvrage, sur la démarche qualitative, mais ça ne suffit pas pour se former, d'accord ? C'est juste pour comprendre la démarche. Mais vraiment, pour se former, il n'y a rien qui existe actuellement. Ou alors, il faut lire vraiment les ouvrages de Strauss et Glaser, de Katie Sharmaz, qui a fait une théorie ancrée selon une approche constructionniste, constructiviste. C'est vraiment pas évident. Donc, c'est pour ça que je vous invite, moi, plutôt, à faire une analyse thématique réflexive qui me paraît, voilà, beaucoup plus accessible et qui répondra, en tout cas, mieux dans la méthode, dans la partie méthode, pour répondre à vos questions de recherche. D'accord. Eh, c'est compliqué, ouais, Stan. C'est pas évident. La recherche est difficile, hein. Mais du moment que vous justifiez vos choix, que, voilà, vous êtes intègre, vous faites de votre mieux, c'est ça qui est bien. Ce que je voudrais vous dire également, oui, on m'avait posé la question, je voudrais y revenir, c'est important, sur l'analyse thématique réflexive, c'est que, comme je vous l'ai dit, on peut avoir une approche inductive et déductive. Alors, inductive, c'est-à-dire qu'on part sans a priori, sans codage a priori, comprenez bien que c'est un petit peu ce que fait la théorie ancrée. Elle part sans préconception, des données de base, puisque le but est de créer une théorie. Donc, on part de zéro. On part d'un terrain vierge et on veut construire une théorie. C'est ça qu'on appelle une approche purement inductive. Hein ? Ok ? Par contre, donc on peut traiter une analyse thématique selon ce mode-là. Mais on peut également, comme je vous l'ai dit, partir d'une approche déductive, où on a déjà une théorie et un codage a priori. C'est-à-dire qu'on va avoir quelques thématiques qu'on a relevées et qu'on veut trouver dans le corpus donné. Et donc, on va relier ces thématiques a priori. On appelle un book, un pré-book finalement, un livret de codage, un livre de codage, où on a déjà des codes. D'accord ? Donc, ce ne sont pas des codes in vivo. Ce ne sont pas des codes qu'on va créer au fur et à mesure, hein, en découvrant. Des codes qui ne partent de rien, qui sont directs. Là, on va partir d'un livre de codage. On a déjà des codes et on va vouloir trouver et relier ces codes à un guide de code, un codebook déjà établi. C'est ça qu'on appelle une approche déductive. Et ça, c'est tout à fait possible. Et on peut mixer les deux, à la fois avoir une approche d'abord déductive, où on va relier les codes que l'on connaît déjà, puisqu'on s'appuie sur une théorie particulière, et également développer par la suite une approche inductive pour trouver de nouveaux codes qui n'étaient pas a priori dans ces codes a priori. D'accord ? Est-ce que vous comprenez bien cette démarche de flexibilité qu'on peut à la fois employer une approche inductive, déductive ou les deux dans l'approche dans l'analyse thématique réflexive ? C'est ce qui fait sa flexibilité. On rassure ce que tu dis ? Oui. Voilà, d'accord. Très bien. J'en suis ravi. Non, c'est ça qui est intéressant dans l'analyse qualitative réflexive, c'est qu'on peut faire les deux. Parce que parfois, ces méthodes, elles sont fermées, elles sont rigides, elles sont rigoureuses. Hein. Je pense à l'IPA, l'analyse interprétative phénoménologique, qui est principalement faite pour comprendre le vécu subjectif des sujets, notamment en psychologie, pour comprendre, par exemple, le vécu dans le cancer. On va faire une approche phénoménologique, vous voyez. Et là, il y a une méthode qui est particulière, donc elle est rigoureuse. Il faut l'employer de manière processuelle, vous voyez, A, puis B, puis C. Après, on va faire une catégorie supra-ordonnée, comme on appelle, qui va relier tous les thèmes, finalement. Là, c'est beaucoup plus flexible, l'analyse thématique réflexive, vous voyez. Il y a des allers-retours, vous voyez. C'est pas forcément linéaire. Donc, ça demande, en tout cas, une flexibilité, et c'est en tout cas bien pour le chercheur. Hein, et c'est facile à apprendre, en tout cas. C'est ça que je vous rassure. Si ça vous paraît ardu, vous dites oui, oula, Christophe, il nous a dit des trucs ce soir, c'est vachement dur. Non, non, comprenez bien que je vous ai simplifié la méthode et que je vous ai dit comment on faisait, comment on peut la faire raisonnablement, comment on l'apprend et que vous puissiez la mettre en route, en tout cas, dans vos données à vous. C'est le but. Sans aller vous perdre dans des cadres théoriques, dans des lucubrations qui ne servent à rien. C'est pratico-pratique, c'est pragmatique. Voilà, il nous reste une minute. Merci d'être resté avec moi, en tout cas jusqu'au bout, les amis. Merci pour votre fidélité, toujours. Hein. Marilyn, les autres, merci d'être fidèles à mes contenus. Ça fait plaisir. Ça me rassure, en tout cas, de savoir que vous serez là avec moi le vendredi soir, parce que je me disais, mince, je n'ai plus personne, mais je ferai mes conférences tout seul. Mais c'est jamais le cas. Mais on a toujours peur de se retrouver tout seul, le soir, un vendredi soir, comme ça. En se disant, il n'y aura personne. Il y a toujours quelques intéressés, les passionnés, en tout cas. En tout cas, je vous félicite parce que vous pouvez être tout à fait devant votre télévision à regarder Netflix et vous êtes avec moi sur l'analyse thématique réflexive. Ça montre un peu votre engagement, votre passion. Sur le cancer, oui, tout à fait. Oui. On appelle ça une approche phénoménologique. On étudie le vécu du cancer, le vécu de la qualité de vie. Vous voyez comment les gens vivent le cancer, leur état de fatigue, leurs symptômes. Et ça, on appelle ça une approche phénoménologique, une approche... voilà, on essaie de comprendre le vécu subjectif des personnes. Voyez. Merci, c'est gentil. Merci Stan, ça fait très plaisir. Merci pour ces bons feedbacks, ça fait toujours plaisir. On est là, heureusement, Marine. Merci beaucoup en tout cas. Les amis, il est 22h. Je vous remercie infiniment en tout cas de m'avoir accompagné, d'avoir été là ce soir. Et je vous souhaite un excellent week-end. Et je vais vous dire à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Très bon week-end, profitez de votre week-end pour mieux repartir dès lundi. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bye bye. Et merci d'avoir été là.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode de Recherche. À très vite.